Dans ce journal, une étude parue hier dans Nature Astronomy, les nuages moléculaires des galaxies lointaines sont radicalement différents de ceux de notre Voie lactée.
Les nuages moléculaires, ce sont des masses de gaz qui forment, par condensation, des amas d'étoiles. On connaît bien leurs propriétés physiques dans notre galaxie, mais pas pour celles qui sont plus lointaines. Pour la première fois, une équipe dirigée par l'Université de Genève vient d'observer les nuages moléculaires d'une jeune galaxie, le serpent cosmique situé à plus de 8 milliards d'années-lumière. Pour cela, ils ont utilisé le phénomène de la lentille gravitationnelle qui grossit les objets, associé à l'interféromètre ALMA. Les observations correspondent aux simulations numériques de l'origine de l'univers. Les nuages moléculaires du serpent cosmique sont plus actifs que ceux de la Voie lactée. Ils produisent 100 fois plus d'étoiles. Pourquoi une telle efficacité de formation d'étoiles? Françoise Combe est astrophysicienne à l'Observatoire de Paris et professeure au Collège de France. Elle est signataire de cette étude.
Il y a plusieurs choses. On pense que d'abord, il y a beaucoup plus de gaz. C'est une galaxie qui a plus que 50% de sa masse en gaz, en masse de baryon, de l'atome ordinaire. Et puis, donc, il y a beaucoup plus de gaz. Il est plus instable. Donc, il forme des gros nuages. Et puis aussi, lorsqu'on est loin dans l'univers, donc, l'expansion, aujourd'hui, nous a dilué un peu toutes les galaxies. Elles ont une densité plus faible. Autrefois, on avait toutes une densité plus forte. Donc, quand on a une densité plus forte dans une galaxie, tous les temps caractéristiques sont plus courts. Tout se passe plus vite. Donc, on pense que dans le passé, le temps dynamique était beaucoup plus rapide. Donc, on formait beaucoup plus d'étoiles. Mais c'est la première fois qu'on a pu le voir, vraiment, voir les nuages un par un. Alors que d'habitude, on a juste un amas de nuages qu'on n'arrive pas à résoudre les uns par rapport aux autres. L'avantage de cette lentille gravitationnelle qui nous a amplifié l'image. C'est une première étape, le début de quelque chose. Le début où on essaie de comprendre ce qui se passe au début de l'univers, pourquoi toutes les étoiles que l'on voit aujourd'hui autour de la Voie lactée se sont formées dans la première moitié de l'âge de l'univers, pourquoi tout était plus actif autrefois. C'est la première fois qu'on résout les nuages un par un. Donc c'est le début d'une époque où on pourra faire ce qu'on fait aujourd'hui dans la Voie lactée, le faire dans les galaxies beaucoup plus lointaines.
Voilà, comme chaque jour, les liens vers les études que nous mentionnons et que nous détaillons dans ce journal des sciences, ainsi que tout au long de l'émission, c'est à retrouver sur le fil Twitter de la méthode scientifique, @lamethodefc. Et on passe au bref du jour. Les climatologues français viennent de publier aujourd'hui leurs résultats pour le prochain rapport du GIEC. Ils prévoient un réchauffement plus élevé que ceux des dernières prévisions.
Ils proposent 8 scénarios et selon le plus pessimiste, celui où une croissance économique rapide est associée à l'exploitation d'énergies fossiles, la température moyenne globale va augmenter de 6 à 7 degrés en 2100. C'est 1 degré de plus que les pires estimations faites en 2012. Alors, pourquoi cette différence? Les nouveaux modèles de simulation du climat se sont affinés depuis. Les émissions de gaz à effet de serre, les aérosols atmosphériques et l'exploitation des sols sont des facteurs mieux évalués et ils sont associés au contexte socio-économique. Pour tenir l'objectif d'un réchauffement global à 2 degrés, un scénario est possible. Atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble du globe d'ici 2060, c'est peut-être réalisable, mais seulement au prix d'efforts drastiques.
Dans la revue PNAS, des paléontologues cherchent à expliquer pourquoi les archives fossiles proviennent principalement de spécimens masculins.
C'est ce qu'on observe dans tous les musées d'histoire naturelle du monde. Les spécimens de fossiles de grands mammifères, bisons, ours bruns ou mammouths, sont en grande majorité des mâles. Ce qui est curieux, hein, car rien n'indique que chez ces espèces, il y a eu un déséquilibre à la naissance du ratio mâle-femelle. Une équipe australienne propose plusieurs hypothèses. Soit la structure des troupeaux isole les jeunes mâles et donc les expose plus aux risques et aux prédateurs, c'est ce qu'on voit chez les actuelles populations d'éléphants. Soit, autre biais possible, nos pratiques de collecte face au dimorphisme sexuel entre les spécimens d'une même espèce. Les chercheurs de musées favorisent la conservation des plus gros fossiles qui s'avèrent être ceux de spécimens masculins.
Et puis dans la revue Science, des neuroscientifiques allemands viennent de prouver que les rats aiment jouer à cache-cache. Et
pendant quelques semaines, les chercheurs ont appris ce jeu à des rats. Ils ont joué avec eux en se cachant derrière des cartons, et ce, sans avoir besoin de les récompenser avec des friandises. L'analyse de leurs cris ultrasoniques montre qu'il s'agit bien des sons que les rongeurs émettent quand ils éprouvent du bien-être. On sait que ce sont des animaux intelligents et sociaux, mais on ne connaissait pas cette dimension ludique chez eux. Cette découverte lance de nouvelles questions éthiques quant à leur exploitation dans les laboratoires.